Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de ce Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle qui est diffusé chaque semaine hein, sur microrebelle.fr en direct. Hein, si vous vous connectez sur notre site le vendredi à 18h, vous écouterez cette émission dans son intégralité et qui est rediffusée par nos amis Radio Hertzienne de la Franf, la Fédération des radios associatives du nord de la France. C'est le cas notamment de Radio PFM 99.9 dans la Rajoie qui nous rediffuse le vendredi soir à 20h. Le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Et également dans le bassin minier, Radio Plus 104.3 à Douvrin, qui nous rediffuse le mardi à 12h. Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors, n'hésitez pas, on vous le dit chaque semaine, hein, à nous contacter pour nous soumettre des idées de chroniques, d'émissions, des actualités. À diffuser dans l'agenda, à diffuser dans nos programmes de type revue de presse ou reportage. En studio aujourd'hui, petite équipe, hein, nous sommes avec Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et avec Luc. Alors Luc est...
Bonsoir, voilà, j'ai eu un problème de micro, on m'a pas entendu.
Ah ben, je voulais préciser justement que Luc, tu étais aussi un petit peu enroué. Hein.
Ouais,
La semaine a été...
Je vais pas parler beaucoup.
La semaine a été dense, effectivement. Au programme de ce Micro Rebelle Hebdo, hein, comme chaque semaine, l'agenda que nous ferons à deux voix, hein, Aurélie et moi. La revue de presse, ben, qu'on fera également à deux voix, toujours Aurélie et moi. De la musique libre, hein, comme toujours sur Micro Rebelle. Et puis deux reportages, deux émissions. Une émission sur le mal logement et les expulsions locatives. Et enfin, une petite chronique qui concerne la manifestation de la semaine dernière sur le climat et le vivant qui s'est déroulé à Arras. Eh bien, on va démarrer par l'agenda donc, que je vous propose avec Aurélie. Alors, on va commencer par Les mauvais jours finiront. Hein. Vous savez que c'est un festival, c'est le quatrième festival du nom, qui dure déjà depuis une semaine. Donc, ce week-end, hein, samedi 4 et dimanche 5 mai, c'est la fin de ce festival, Les mauvais jours finiront. Alors, au programme, le samedi 4 mai, de 13h à 18h, kermesse, musique, tournoi de pétanque, jeux, graphes, pizza. Ça se passe à la plaine des métallurgistes, rue Philippe Lebon, dans le quartier de Fivelem à Lille. Donc ça, c'est pour le samedi 4 mai. Et le dimanche 5 mai, à 15h, une déambulation d'ornis. Alors les ornis, ce sont des objets roulants non identifiés. Et ça se passe au parc des Aulieux, quartier Moulin à Lille toujours. Ce sera suivi à 17h d'un goûter gourmand. Au 5 étoiles, le 5 étoiles c'est rue Jean Jaurès, toujours à Lille. Et à 18h, donc une soirée un petit peu militante, une soirée contre les prisons, avec table de presse, expo, des textes, des sons, et la projection du film « Faites sortir l'accusé », film qui sera suivi d'une discussion avec le réalisateur Pierre Guérinet. Donc c'est les derniers jours du festival « Les mauvais jours finiront » à Lille.
On se retrouvera toujours le samedi 4 et le dimanche 5 mai pour la diffusion du film Rebelle, donc au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière. Donc le synopsis est le suivant. Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler le secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent. Donc la projection aura lieu le samedi 4 et le dimanche 5 mai à 16h30 et à 20h30.
On reste sur le samedi 4 mai, donc c'est toujours c'est une fois de plus en métropole lilloise. À la Maison des associations de Mont-Saint-Barreul, une initiative proposée par la coopérative CLIS 21, l'autogestion, échange de réflexions et de pratiques. Alors comme beaucoup de collectifs qui ont choisi de fonctionner de façon collégiale, horizontale, autogérée, des interrogations demeurent. sur nos pratiques, la place de chacune et de chacun, la circulation de l'information, le partage des responsabilités, le rapport individu-collectif. Pour CLIS 21, la gestion directe de l'outil de travail, le pilotage de l'entreprise par les salariés eux-mêmes, contribue à la réappropriation de leurs activités par les femmes et les hommes qui les mettent en œuvre. À l'opposé du capitalisme qui dépossède les gens de leur savoir-faire et de la conduite de leurs activités, l'autogestion s'inscrit dans la mise en œuvre d'un nouveau système centré sur les gens, avec d'autres rapports sociaux, d'autres rapports de production. Mais c'est aussi une réflexion sur l'utopie autogestionnaire et sa mise en pratique, les limites du cadre imposé par la société de marché, les contradictions avec lesquelles il faut faire, les nouveaux rapports qu'il faut inventer, bien loin de ceux auxquels nous sommes préparés. Donc c'est le samedi 4 mai de 10h à 12h30 à la Maison des associations de Mons-en-Barœul, 8 Terre rue d'Alsace, et c'est au métro Fort de Mons. La matinée sera suivie d'une auberge espagnole, donc sur place, toujours à la Maison des associations. Et ensuite, CLIS 21 propose une foire aux installs pour installer des logiciels libres, apprendre à utiliser GNU Linux et d'autres logiciels libres, à partir de 14h à l'espace Mons Fabrica, toujours à Mons-en-Barœul.
Toujours le samedi 4 mai aura lieu un troc de fringues spécial printemps. Donc ça se passera au café coopératif Les Sarrasins de Lille-Oisème dès 15h, donc au 52-54 rue des Sarrasins. Donc le principe, vous venez avec ou sans vêtements, en particulier ceux dont vous ne vous servez plus. Si vous n'avez pas de vêtements, vous pouvez quand même prendre ceux des autres. Pas de contrepartie, pas d'argent, pas d'engagement, rien, du troc et c'est tout.
Samedi 4 mai toujours, on a pas mal d'événements ce jour-là. C'est une journée contre les crimes policiers. Et c'est organisé par l'action antifasciste NP2C, donc Nord-Pas-de-Calais, et le crime. Le crime, ça, c'est un acronyme qui signifie « contre la répression des individus et des mouvements d'émancipation ». Donc, aspect pratique, c'est le samedi 4 mai, à la Bourse du Travail de Lille, donc 254 boulevard de l'Usine. Au programme, à 15h30, présentation du livre « Le combat Adama », en présence des auteurs Assa Traoré et Geoffroy de la Gasnerie, ainsi que des familles de Selom, Matisse et Henri L'Enfant. Donc Assa Traoré, c'est la sœur de Adama Traoré, et Selom, Matisse et Henri L'Enfant, ce sont des personnes qui se sont fait tuer par des policiers. À 19h, concert de soutien aux familles et contre la répression, avec notamment les groupes Lax, Midos, Lados, 13, Digicepti, Rems, Manqué. Donc samedi 4 mai, journée contre les crimes policiers.
Le dimanche 5 mai, on se retrouve pour une formation à la désobéissance civile, donc formation organisée par le collectif des désobéissants, donc avec comme slogan « Apprendre à désobéir et pourquoi pas ». Ce stage s'adresse aux militants expérimentés comme aux militants débutants. Il s'agira notamment d'apprendre à organiser des actions visant à défendre des droits sociaux de plus en plus menacés, les droits humains et des animaux, l'avenir de la planète aussi. Donc cette formation peut s'avérer très utile pour mieux appréhender notre rapport à la police, aux médias, à la non-violence, etc. Au programme, il y aura une approche théorique et des exercices pratiques, des mises en situation, mais aussi des techniques de bricolage, des techniques et bricolage destinées à permettre de mener à bien des actions directes non-violentes, avec des échanges de savoirs et de pratiques, avec toutefois aussi des réflexions par petits groupes et des ateliers médias et juridiques. Donc cela se passera au Moulin de Oisème, au 30 rue des Meuniers à Lille, le dimanche 5 mai de 9h30 à 18h30. Donc le tarif, c'est à prix libre. Par contre, on a tout de même un prix indicatif qui est de 30 euros.
On passe maintenant au lundi 6 mai, hein, vous en a déjà parlé plusieurs fois sur Micro Rebelle, c'est le film « Je veux du soleil », donc il termine en fait sa programmation au Cinémo Vida à 20h, lundi 6 mai, et après ce film, il y aura un reportage sur la France des Gilets jaunes.
Le mardi 7 mai, on se retrouve pour la projection du film « Silent Voice » au cinéma « Les étoiles » de Bruy-la-Bussière à 20h30. Donc, avec comme synopsis, Nishimaya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncée pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes et part à la recherche de la jeune fille. Donc ça se passera au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière à 20h30, le mardi 7 mai.
Le lendemain, mercredi 8 mai, donc jour férié, hein, eh bien, se tiendra la marche des oubliés. Et la marche des oubliés, c'est un appel à la mobilisation à 18h30, route de Saint-Omer à Calais. Cette mobilisation est organisée par le collectif Appel d'air. Donc on va effectivement y parler migrants, migrantes et migration. Donc Calais et les réfugiés qui s'y échouent se trouvent dans une spirale d'insécurité et de menaces permanentes depuis une quinzaine d'années. Mais la situation a atteint aujourd'hui un degré d'indignité sans précédent. Le collectif Appel d'air, organisateur de la manifestation du 8 mai, qui partira route de Saint-Omer à Calais et qui finira face au port de Calais, en passant par le centre-ville, appelle à une forte mobilisation ce jour-là. Nous invitons chacune et chacun à venir avec banderoles, affiches et messages à envoyer aux autorités à qui les revendications sont adressées.
Le mercredi 8 mai et le vendredi 10 mai, on se retrouvera pour la projection du film Compañeros. Donc ça se passera au cinéma Les Étoiles de Bruit et la Bussière, décidément, toujours ce cinéma. Donc le mercredi 8 mai, les séances seront à 16h15 et 20h30. Et le vendredi 10 mai, seulement à 18h15. Donc ce film est inspiré d'une histoire vraie. En effet, En 1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, les trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper à une terrible réalité qui les condamne à la folie.
On va clôturer cet agenda par la journée du 9 mai, jeudi 9 mai, et par une grève dans la fonction publique. Donc les 9 centrales syndicales de la fonction publique, fonction publique territoriale, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, appelle les salariés à la grève le jeudi 9 mai. Bien, cet agenda est maintenant terminé. On va, comme chaque semaine, hein, se pencher sur ce que nous propose la presse locale, la presse nationale. Je vous l'ai dit, c'est Aurélie et moi qui allons vous faire quelques propositions. Donc je vais commencer peut-être par une actualité dont tous les médias ont parlé cette semaine. Il s'agit de Auchan. Auchan qui va céder 21 sites. Alors, j'ai relevé ce titre dans La Voix du Nord. Auchan va céder 21 sites, 787 salariés concernés en France. Et dans le chapeau de La Voix du Nord, c'est une première dans l'histoire d'Auchan. Confronté à une situation économique préoccupante, le groupe de distribution vient d'annoncer qu'il allait céder 21 sites en France, considérés comme déficitaires, dont un hypermarché en région parisienne et deux supermarchés à Marquette et Arras. En fait, La Voix du Nord consacre deux pleines pages à ses ventes de magasins Auchan et au plan social qui se prépare. Alors disons-le d'emblée, La Voix du Nord ne se pose pas trop de questions et prend le parti de la direction et des actionnaires d'Auchan. Il est vrai que Auchan, c'est une entreprise du Nord. Son siège est à Croix, près de Lille. Les propriétaires de Auchan, c'est la famille Mullier, une famille du Nord. Ça crée sans doute des liens avec notre grand quotidien régional. Relevons quelques expressions de La Voix du Nord concernant Auchan dans ces deux pleines pages. On l'a vu dans le titre, Auchan est confronté à une situation économique préoccupante. Et un peu plus loin, les 23 sites en France considérés comme déficitaires. Nous avons également relevé en vrac, je cite quelques expressions de cet article, de ces deux pages. Une situation économique difficile. Des sites sans perspective réaliste de retour à la rentabilité, de mauvais résultats, des soins délicats pour une enseigne malade. Auchan a pris du retard ces 10 dernières années. Auchan est distancé. Enfin, La Voix du Nord nous relate l'histoire d'Auchan et de la famille Mullier, en rappelant quand même que Mullier est la première fortune professionnelle de France. On aurait aimé que La Voix du Nord insiste davantage sur les gigantesques profits réalisé par les actionnaires d'Auchan et donc la famille Mullier. L'article mentionne quand même, par la bouche d'un délégué syndical, les 500 millions d'euros perçus par Auchan sur les 6 dernières années au titre du CICE. En clair, les licenciements qui se préparent seront subventionnés par l'État. Rappelons quant à nous que la fortune de la famille Mullier était estimée en juillet 2018 à 36 milliards d'euros. Et en 2018, sur une année, le gain de la famille Mullier a été de 8 milliards, soit quasiment 1 million d'euros par heure. Le fait de maintenir l'emploi des 787 salariés concernés, c'est entre 1 et 2 journées de profits, d'émuliers. Ne reste plus qu'une issue, toujours la même, la mobilisation, la lutte des personnels d'Auchan sur une base très claire, prendre sur la fortune des muliers pour assurer leurs propres revenus. Alors toujours dans l'actualité nationale, La Voix du Nord titre « Le scénario d'une attaque à la Pitié-Salpêtrière battue en brèche ». Et le journal explique « Des dizaines de manifestants ont fait irruption dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lors du défilé du 1er mai, un incident qualifié d'attaque par le ministre de l'Intérieur. Cette version a été battue en brèche hier par des témoignages et des vidéos visibles sur les réseaux sociaux. » Et le journal continue « Geste totalement irresponsable pour le Premier ministre Édouard Philippe. Exaction inédite, inqualifiable pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Les condamnations se sont succédées après l'intrusion de certains manifestants dans l'établissement du 13e arrondissement. On a attaqué un hôpital et agressé son personnel soignant », a tweeté le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mercredi. Et puis, patatras, tous ces beaux discours s'effondrent. Extrait du journal. Depuis la vidéo d'un des soignants du service de réanimation, relayé sur Facebook, est venu contredire la version d'une attaque et appuyer celle d'un mouvement de panique avancé par plusieurs témoins. Selon eux, des manifestants auraient pu chercher à se réfugier dans l'hôpital pour échapper aux charges de la police ou à l'air saturé de gaz lacrymogène. Elle montre des manifestants fuyant vers des soignants postés sur une passerelle qui dessert la sortie de secours du service de réanimation alors que des policiers entrent dans le site. Après s'être repliés dans le bâtiment, les soignants bloquent la porte tandis que les premiers manifestants arrivés sur la passerelle tirent sur la poignée. Ils sont une vingtaine, parmi lesquels quelques gilets jaunes pour certains âgés à qui les soignants expliquent pourquoi ils ne peuvent entrer. Au bout d'une minute, des policiers arrivent sur la passerelle et commencent à les évacuer dans le calme. Il n'y avait rien de violent, en tout cas envers nous, a témoigné l'infirmier Jérôme Leclerc. C'était plus un état de panique, la peur de se faire taper, de recevoir quelque chose de la police, qu'une attaque. Fin de citation, donc, de cet extrait de La Voix du Nord. Ainsi, les grandes déclarations de Castaner, relayées par d'autres ministres, ne seraient qu'un énorme bobard, visant à faire passer tout manifestante ou manifestant pour un casseur, un délinquant. Et c'est tout le contraire. Les manifestants et manifestantes qui sont entrés à l'hôpital ne faisaient que fuir et se mettre à l'abri des charges policières, des gaz lacrymogènes. La criminalisation et la répression du mouvement social sont entre les bonnes mains du gouvernement. Alors justement, à propos des violences policières, l'Humanité interview Geneviève Leguet, qui a été chargée par la police le 23 mars dans la manifestation des Gilets jaunes. Plus d'un mois après, son témoignage est saisissant et nous donne à voir la réalité des violences policières et de la répression. Extrait de l'Humanité. C'est une interview. Vous êtes aujourd'hui toujours en centre de convalescence. Comment allez-vous ? Geneviève Leguet répond : Je peux me tenir debout, mais je ne peux pas marcher seul, parce que j'ai des vertiges. Je ne peux pas rester assise très longtemps, pour la même raison. Je n'ai pas retrouvé mes cinq sens. J'ai retrouvé un peu de vue, mais je ne vois pas normalement et mes lunettes de vue ne me vont plus. J'étais complètement sourde de l'oreille droite parce que le rocher était fracturé. Ça s'est amélioré au bout d'une dizaine de jours, mais je n'entends pas vraiment. J'ai zéro odorat. Quant au goût, j'ai 3/10 depuis le début et ça ne revient toujours pas. Autre question du journal. Que disent les médecins ? Donc Geneviève Leguet. Ils sont contents, mais pas moi. Là, ça fait 15 jours que ça ne s'améliore plus du tout. J'ai aussi la mâchoire qui a bougé du côté droit et j'ai mal de ce côté-là. J'ai mal. Je suis sous antidouleur. Le plus gênant, ce sont les vertiges. Moi qui habituellement suis très active, là je ne rêve que de mon lit. Ce n'est pas moi. Les médecins disent que mon cerveau doit se réadapter à la position verticale. On vient de me fixer un objectif de sortie pour le 15 mai. Quand je suis arrivé ici, le 2 avril, on m'avait dit 15 jours. J'arrive à me raisonner, mais j'ai des hauts et des bas quand même. Voilà, fin de citation. À Micro-Rebelle, nous pouvons confirmer que des personnes nous ont dit qu'elles n'allaient plus manifester de peur des charges policières ou des gaz lacrymogènes. Même chose pour celles et ceux qui trouvaient naturel de se rendre à une manifestation en famille. On parle beaucoup, à juste titre, des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, qui mutilent les manifestantes et les manifestants. Mais les gaz lacrymogènes, c'est également terrifiant. En manifestation, quand on voit un jet de grenade lacrymogène au loin, on n'y fait pas attention. Et puis il suffit que le vent tourne et on est exposé, même quelques secondes, au gaz. Et là, pendant une heure, on pleure. On a du mal à respirer, on a mal à la tête. Et on se dit que la prochaine fois, on ne viendra plus. C'est ainsi que le ministre Castaner et ses autres soutiens ministériels, petit à petit, étouffent le droit de manifestation. Un retour maintenant sur l'actualité locale. Dans La Voix du Nord, une info que Micro Rebelle va suivre. En titre, les Gilets jaunes se réuniront à Lens le 18 mai. Extrait. Rendez-vous devant la mairie. C'est ainsi 5 semaines après la marche vers Lille depuis Liévin que devrait se tenir un rassemblement qui fera rallier Lens aux Gilets jaunes de tout le bassin minier et plus largement du Pas-de-Calais, mais aussi, en réponse à l'initiative du 13 avril, à ceux du Nord, dont des manifestants de Lille, Tourcoing et Roubaix. Le rassemblement est prévu à 13h30, place Jean Jaurès, devant la mairie de Lens. Le cortège devrait cheminer jusqu'à Liévin. À suivre donc, on en reparlera très vite. Alors, actualité en bref, toujours actualité locale avec cet article de La Voix du Nord. Du glyphosate dans leur urine, des habitants vont déposer plainte. 6 habitants du bassin minier, donc poursuit l'article, ont passé des tests urinaires afin de connaître leur taux de glyphosate contenu dans leur urine. Les résultats serviront de base à une action en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors effectivement, ils et elles ne sont pas tout seuls en France. Il y a déjà 1500 plaintes qui ont été déposées après des relevés indiquant la présence de glyphosate dans les urines. Le journal signale « Les analyses urinaires des volontaires sont en moyenne près de 15 fois supérieures à la norme admise de glyphosate dans l'eau du robinet. » Et enfin, en conclusion, « Prochainement, ils vont déposer plainte devant le tribunal de grande instance d'Arras pour mise en danger de la vie d'autrui, empoisonnement et tromperie aggravée. Leur geste vise aussi à sensibiliser la population et forcer les pouvoirs publics à prendre des mesures d'évaluation et de réglementation. » Alors on va terminer cette revue de presse pour ce qui me concerne en vous parlant ou en vous reparlant du BHNS. Alors La Voix du Nord est allée à Courcelles-lès-Lens, donc pas très loin de Liévin, pas très loin, c'est dans le bassin minier. Un court extrait. Les représentants de l'association des parents d'élèves du collège Adulphe de Le Gorgue, parents de lycéens ou futurs lycéens, sont très mécontents des nouveaux horaires des différentes lignes de bus qui desservent la commune. Et ils ont constaté dans leur entourage, vivant dans des communes de la CAQ, qu'ils n'étaient pas les seuls. Alors c'est l'occasion de vous inviter à écouter le micro-trottoir réalisé par Jacques et Sandrine à l'occasion d'un club radio réalisé par Micro Rebelle. Le club radio, ce sont des ateliers radio ouverts à toutes et à tous. Donc Jacques et Sandrine ont posé quelques questions à des usagers et usagères des bus sur le territoire. Les résultats sont assez contrastés. En gros, concernant le BHNS, c'est-à-dire en particulier la bulle 1 sur Lens-Liévin, concernant cette ligne donc, il y a globalement de la satisfaction. A l'opposé, hors la ligne bulle, c'est-à-dire concernant les autres lignes qui desservent les villes alentours, c'est plutôt le mécontentement qui prédomine. Ce reportage, ce court reportage du Club Radio, est à écouter sur microrebelle.fr. Eh bien, je cède maintenant la parole à Aurélie.
Merci. Un article paru cette semaine dans La Voix du Nord parle du petit déjeuner gratuit dans les écoles de Denain, système mis en place à partir de cette semaine. Donc, l'article mentionne le fait que ce dispositif est un test effectué dans 8 académies actuellement. L'académie de Lille n'ayant pas été retenue, c'est la maire de Denain elle-même, Anne-Lise Dufour, qui a demandé à en faire partie. Aujourd'hui, nous savons par le biais de recherches que les inégalités commencent à s'accroître dès l'enfance. En effet, un enfant ayant pris un petit déjeuner est plus attentif que celui qui n'en a pas pris. Dans ce cas, le petit Émeric, 5 ans, qui a déjeuné ce matin, se sent plus en forme que Mathéo, qui lui n'a pas pris de petit déjeuner. Malheureusement, bien souvent, cela ne dépend pas de la volonté des enfants. En effet, les moyens ne sont pas les mêmes dans chaque famille. Pardon. Le dispositif du petit déjeuner gratuit a été proposé exclusivement aux zones prioritaires. Donc cela ne concerne a priori que certains quartiers, que certaines écoles primaires et maternelles. Or, la maire de Denain a négocié avec la rectrice et le recteur académique pour que dans sa ville, toutes les écoles aient le droit à ce dispositif. En effet, peut-être s'agit-il là de ne pas créer encore plus d'inégalités entre les enfants, parce que comme le soulignent d'autres articles que j'ai pu lire à ce sujet, comme un venant de France Bleu, ce n'est pas parce qu'un enfant est dans une école de zone prioritaire que sa famille n'a pas les moyens. Cela touche toutes les écoles, peu importe en réalité le quartier, même si cela peut être un facteur important. Toutes les écoles maternelles et primaires devraient avoir le droit à cette mesure. C'est pour cela que nous pouvons toutefois saluer l'initiative de la maire de Denain. Il n'est pas question de quartier, comme le déterminisme social tend à le faire croire. La pauvreté peut être là où on ne l'attend pas. Pour que tous ces enfants soient sur un pied d'égalité, il ne faut pas les différencier. Que Aymeric ait un déjeuner ou non, il a le droit d'avoir la possibilité de le faire dans son école, peu importe à quelle catégorie sociale il appartient, que son école appartienne au réseau d'éducation prioritaire ou non. On peut juste regretter le manque de clarté dans l'annonce de ce dispositif. Est-ce que ce petit déjeuner aura lieu toute la semaine? 2 jours par semaine? Il semblerait que pour l'instant la mesure ne concerne qu'un à deux jours par semaine. Certains diront que c'est déjà bien, mais je fais partie de ceux qui trouvent que justement ce n'est pas assez. Débloquer 6 millions d'euros pour ce dispositif et ne le faire qu'à moitié, c'est dommage, très dommage, oui. Puisque considérons que ces petits déjeuners gratuits n'aient lieu que 2 jours par semaine, où note-t-on l'amélioration pour ces enfants? Je veux dire, l'objectif reste quand même que ces enfants soient tous concentrés sans subir une chute d'attention dans la matinée. Alors avouons-le, annoncer ce dispositif en grande pompe, en clamant haut et fort que cela va réduire les inégalités, améliorer les performances des enfants, c'est un peu une publicité mensongère. Cette mesure ne sera aboutie que si elle a lieu chaque jour de la semaine et pour tous.
C'est le moment de faire une pause musicale.
C'est parti.
Alors on va écouter Portron Lopez. C'est un groupe qui postule au titre... Comment ils appellent ça déjà? C'est le titre de l'année sur Zik Libre en Bible. Voilà, il y a une présélection pour l'instant, les nominés, on va dire. Zik Libre en Bible, un site de référence pour la musique libre qui est alimenté par des bibliothécaires d'un peu partout en France. Et donc ce groupe y postule et le titre c'est « De tout le corps jury ». Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes dans le bassin minier et au-delà, magazine des alternatives politiques et économiques, également une émission rediffusée chez nos amis de PFM et de Radio Plus. On va maintenant passer à l'écoute d'un reportage réalisé cette semaine. Voilà, on sait que la trêve hivernale termine au 1er avril. À partir de ce moment-là, les expulsions locatives reprennent. On sait peut-être ou pas qu'en 2017, c'est les expulsions locatives avec le concours des forces de l'ordre ont explosé pour atteindre le chiffre faramineux de 15 000. Uniquement pour celles avec les forces de l'ordre. Dans le bassin minier, il y a un collectif qui lutte contre ces expulsions, entre autres. J'en dis pas plus, tout est dit. La part du loyer dans le budget des familles a doublé en 30 ans pour atteindre 25%. Les inégalités économiques explosent. Les expulsions de logements ont atteint le chiffre record de 15 547 en 2017, uniquement pour celles qui ont mobilisé le concours des forces de l'ordre. Pourtant, les moyens de prévention de ces expulsions sont faibles. Le gouvernement peut donc se targuer de mettre en œuvre un plan logement d'abord, si la suite du parcours est expulsion après. Pour parler de la réalité de la lutte contre la précarité énergétique et les expulsions, nous avons interrogé Jean-Luc Durier et Emmanuel Dutois de La Clé, collectif de lutte contre les expulsions locatives et les coupures de fluides, rencontrés lors de la remise du rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre à la communauté d'agglomération Lens-Liévin.
C'est un collectif informel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de carte de visite, pour prendre cet exemple-là. On a donc simplement des contacts par le bouche à oreille, et puis aussi par les communications qu'on peut être amené à faire dans la presse. Quand on fait une réunion, on aime bien avoir effectivement une conférence de presse à la fin pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est la clé, ça veut dire collectif de lutte contre les expulsions locatives et les coupures de fluides. Tout est dans le nom, c'est-à-dire qu'on se mobilise pour empêcher les coupures d'électricité, de gaz, d'énergie, et puis les expulsions de logements. Mais quand je dis on se mobilise, c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le premier niveau sur lequel on aimerait bien pouvoir intervenir, c'est de travailler en prévention. Et en prévention, c'est-à-dire dès pratiquement qu'il y a un impayé qui se pointe, quoi, hein, parce que la famille est en difficulté. En général, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un événement de la vie, un accident de la vie, et donc la famille se retrouve en difficulté, ne peut plus payer une échéance, voire plusieurs échéances de loyer. Quand on est dans cette situation-là, c'est bien que les gens puissent venir nous contacter, parce qu'on va servir d'intermédiaire, effectivement, avec toutes les structures qui peuvent exister, les réorienter. En priorité, d'abord, on demande aux gens de contacter leur CCAS, le Centre communal d'action sociale, sachant qu'il n'y a pas de CCAS dans toutes les communes et que tous les CCAS ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Mais c'est la première démarche, de dire aux gens, écoutez, il faut signaler déjà au maire, enfin par l'intermédiaire du CCAS, que vous êtes en difficulté, parce que c'est lui le premier qui peut intervenir. Et après, on va orienter, aider, accompagner, trouver s'il y a des solutions, proposer des solutions, de façon à rentrer dans ce parcours qui va permettre à la personne d'éviter l'expulsion locative. Mais comme malheureusement, l'information ne circule pas toujours bien et difficilement, on est parfois saisi 24 heures avant l'exécution d'un jugement avec le concours de la force publique. Ça nous est arrivé il y a 2 ans, je crois que c'était à Houdin ou à Divion, où avec les copains Daniel Dowal, l'ancien maire de Houdin, puis d'autres copains, on a essayé d'empêcher l'expulsion d'une jeune femme de son logement, en bloquant les flics qui étaient là, puis après le GIGN est intervenu, donc il n'y avait plus le même rapport de force forcément, mais on a tout mis en œuvre pour essayer d'empêcher cette expulsion. Mais c'est vraiment le cas extrême. On n'aime pas arriver dans ces issues-là. Ce qu'on préfère, c'est effectivement arriver. Quand la personne nous dit « je suis en difficulté », on va essayer de l'accompagner pour trouver les solutions qui existent. Mais comme tu l'as entendu aujourd'hui, comme un certain nombre d'institutions parlent un jargon et puis il y a un dédale de commissions, c'est très compliqué pour le locataire moyen qui entrave que dalle de s'orienter dans tout le maquis des aides possibles. Et il y a beaucoup d'aides possibles. Après, bon, on a des bailleurs qui jouent le jeu, puis on a des bailleurs qui ne jouent pas le jeu. Nous, sur le secteur de Bruet, l'agence de maisons et cités, c'est une catastrophe. Donc, bon, on se bat avec eux en permanence, quoi.
Aujourd'hui, c'est présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. J'imagine que vous y êtes confrontés. C'est quoi la réalité du mal-logement dans le bassin minier ?
Manuel, j'habite Cambrin. J'ai un logement, on va dire insalubre.
Indécent.
Propriétaire légèrement marchand de sommeil. Donc c'est vrai que je ne payais plus mes loyers. Venez voir ma salle de bain, ma douche, vous n'allez jamais prendre votre douche. Après, moi, c'est le problème du fluide. L'électricité, on va dire ça, l'électricité, l'eau. J'habite au-dessus d'un café tabac. C'est la gérante du café tabac qui me fait payer les factures. J'ai pas de papier, j'ai pas de facture. J'ai un petit compteur qui tourne, mais bon, c'est un compteur qui a été rajouté. Donc, c'est passé en une année, c'est passé du simple au double. Pour 4 mois, j'ai eu 800 euros d'électricité, dont en plus, je me chauffe au pétrole parce que bah, j'ai des fuites partout, ça n'arrive pas à chauffer. L'hiver dans ma cuisine, il fait quoi, 11-12 degrés. Donc, on a fait passer l'assistante sociale, la MDS... Ben voilà, ça suit son cours, on envoie des lettres recommandées au propriétaire qui ne va pas les chercher, donc c'est tout, quoi. On va la signer. Et c'est vrai que j'habite avec mon garçon de 21 ans, on a fait une demande de logement dans tout ce qui est bailleurs sociaux.
La lutte contre les marchands de sommeil, et souvent ça va de pair, contre les logements insalubres ou indécents, ça fait aussi partie des missions que se fixe la clé.
Pas vraiment, hein, puisque nous on est essentiellement quand même orienté au niveau de la clé sur les expulsions, mais ou les coupures. Mais par contre, bon, on a d'autres casquettes. Moi, j'ai une autre casquette puisque je représente une association de défense des locataires et des consommateurs qui s'appelle la Confédération syndicale des familles. Et ça, à ce titre-là, effectivement, on intervient au nom de la CSF auprès des bailleurs et bon, là, en l'occurrence, dans l'appartement de Manu, on a effectivement aidé Manu à faire des courriers, on l'a mis en rapport avec un avocat, on accompagne la MDS, l'assistante sociale de la MDS, elle a fait ce qu'ils appellent un rôle, c'est-à-dire un relevé d'observation sur le logement. Bon, mais a priori, pour l'instant, ça fait un mois, c'est toujours pas parti. Donc, bon, on sait que c'est long. C'est long au niveau institutionnel. Donc, on va essayer de pousser les choses pour que ça aille plus vite. Alors, ce que n'a pas dit Manu, c'est qu'elle ne peut plus payer son loyer parce qu'elle a des factures d'électricité. C'est une passoire thermique, l'appartement. Il y a des fuites d'eau à l'intérieur. Donc, elle ne peut plus payer son loyer parce que, d'abord, en situation de précarité au niveau de l'emploi. Et puis, parce que tout l'argent, il passe dans un, entre guillemets, des factures. C'est même pas des factures. Parce que le propriétaire, étant en contradiction avec la loi, il n'a pas installé de compteur... Donc Manu ne peut même pas utiliser son chèque énergie, hein, puisque ça serait à son nom et elle n'a pas de facture à son nom.
Aujourd'hui, là, il était beaucoup question du plan logement d'abord, qui est une prérogative du gouvernement.
Bla bla bla. Alors, je crois qu'on se donne bonne conscience, on vient d'en avoir l'exemple, quoi. On a effectivement des outils qui ont été mis en place par la loi Allure, qui n'est pas la loi de Macron, mais qui est la loi de la ministre du logement précédent, hein. Et le permis de louer devrait être mis en place pour effectivement empêcher des bailleurs voyous de profiter d'argent public, parce qu'en général, ils bénéficient aussi de l'argent des CAF pour louer des logements insalubre. Et ben, on se rend bien compte que depuis que cette prérogative de permis de louer a été mise en place, elle s'est aux communautés d'agglomération de la mettre en œuvre. On va faire une expérimentation sur deux rues, une petite commune, etc. Les gens qui sont dans ces logements indécents ou insalubres, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'on ait fini d'expérimenter. C'est tout de suite qu'ils ont besoin d'une solution. Alors, si je sais plus comment il s'appelle ce plan là, il va mettre des années et des années à être mis en œuvre parce qu'on va mettre des commissions qui vont évaluer la situation et l'évolution de la situation et le retour d'évolution de la situation. On va dépenser des sous et puis ça changera pas grand chose, quoi. Notre souci, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des gilets jaunes, si tu veux, si effectivement on passe par des phases d'évaluation, d'expérimentation, de bilan d'expérimentation avant d'être... les gilets jaunes, ils sont sur les ronds-points encore pendant 10 ans, quoi.
Jean-Luc Durier et Emmanuel Dutoit du collectif La Clé, collectif de lutte contre les expulsions locatives et les coupures de fluide. Bon, eux, ils sont surtout dans le Béthune Bruée. Je ne sais pas s'il existe ce genre de collectif dans le bassin minier, Lens-Liévin, mais...
Il me semble qu'il rayonne quand même un peu.
Il rayonne un petit peu, faute
d'antenne locale. Oh,
ouais, voilà. Je te laisse introduire le reportage suivant.
Oui, très bien. Donc, le reportage suivant va concerner le climat et les manifestations pour le vivant. Alors, peut-être pour resituer le contexte, hein, le 1er mai à Arras, chaque année, hein, se tient ce qu'on appelle le festival de critique sociale. Donc, c'est un festival qui rassemble beaucoup d'organisations militantes autour également du livre, hein, du livre de critique sociale, justement. Et autour du 1er mai, à Arras, toujours, ou dans les environs d'Arras, se greffent beaucoup, beaucoup d'initiatives, hein, aussi bien des initiatives autour du livre, des lectures, des interviews d'auteurs. Il y a vraiment un programme très, très riche. C'est organisé par l'association Colère du Présent, une association arageoise maintenant qui rayonne également dans l'ensemble de la région, qui par exemple a mis en place le prix Ado en colère, le prix des adolescents en colère. Hein. Vous pourrez voir sur microrebelle.fr un reportage, hein, sur le prix Ado en colère qui vient d'être remis à l'occasion de ce festival de critique sociale du 1er mai 2019. Parmi les autres initiatives... Donc, il y avait le samedi 27 avril, donc quelques jours avant le 1er mai, une grande manifestation régionale pour le climat et pour le vivant. En quoi ça consistait? Comment ça s'est passé? Ben, il y avait 4 marches qui partaient de différents endroits de l'Arjois. 4 marches qui ont convergé vers la place des Héros. Et sur la place des Héros, s'est mis en place différentes interventions avec différentes oratrices et orateurs. Mais s'est mis en place un die-in. Donc un die-in, hein, to die, mourir. Un die-in, c'est l'ensemble des participantes et participants s'allongent à même le sol. En quelque sorte, ils font le mort. Hein, on fait le mort pendant que d'autres orateurs déclinent des statistiques... un petit peu macabre concernant la situation climatique et la situation du vivant dans le monde. Et bien donc, Microrebelle était à ce moment-là, hein, durant ce die-in, hein, sur la place des Héros à Arras, le samedi 27 avril, et a interrogé plusieurs personnes, hein, sous la forme d'un micro-trottoir. Donc la question qui était posée à ces personnes, c'était la suivante. On voit souvent... même très souvent dans les manifestations pour le climat, dans les manifestations pour le vivant, on voit souvent une pancarte « Changeons le système, pas le climat ». Et donc, nous posons la question à nos interlocutrices, à nos interlocuteurs, selon toi, pour toi, qu'est-ce que ça signifie « changer le système » ? Eh bien, on va écouter un petit peu leurs différentes contributions.
Système, changer le système, pas le climat. Moi, j'entends par le mot système ce qui met en œuvre les politiques, hein, qui énergétiques, environnementales, qui met en œuvre la production agricole pour l'alimentation, qui met en œuvre le transport de celle-ci et les modes de consommation pour les citoyens. Donc, changeons le système pourrait être un autre rapport déjà à l'alimentation, à la production, à la consommation. Donc, très important. Alors, bien sûr, tous ces éléments-là influent indirectement sur le climat. Hein, si on prend l'exemple, par exemple, d'un emblème contre lequel nous nous battons depuis très longtemps, depuis 8 ans dans la Somme, puisque je fais partie du conseil d'administration de Novicène qui lutte qui a lutté et qui lutte encore contre la ferme usine des 1000 vaches à Druka. Donc on se rend bien compte que cette usine est totalement climaticide, hein, au niveau de la production. Donc changeons le type de production animale, végétale, pour nourrir l'humanité.
Alors pour moi, changer le système, c'est sortir de la mondialisation et du capitalisme qui, comme je l'écris dans mon dos d'ailleurs sur une pancarte, tue le vivant. Voilà, c'est revenir à... Enfin, c'est adopter la décroissance, carrément. La croissance tue le vivant. Et la décroissance, donc, ce serait consommer moins, notamment consommer moins de viande, enfin, être... plus raisonnable dans sa façon de consommer sur le plan alimentaire déjà et peut-être et sûrement aussi recourir à la consommation plus locale.
Changer le système, c'est changer le système de développement de consommer. Enfin, je sais pas répondre. Je sais ce que je veux dire en plus. On est dans un système de consommation, d'ultra consommation. Il faut arrêter ça. Je veux dire, on sait bien que de toute façon, la croissance, on nous dit la croissance, c'est bien beau la croissance. Et quand la Terre, elle pourra plus régénérer toutes les ressources qu'on lui pique, on vit déjà à crédit. Comment on va faire après ? Après, on veut tout vendre, on nous crée des besoins. On a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un écran plat de 1m20 pour des événements sportifs ou je ne sais quoi ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin de iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10 tous les ans ? On n'en a pas besoin, faut arrêter. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a dans le iPhone ? Il y a des composants qui sont en Afrique où il y a des mômes qui vont chercher les composants nécessaires à la fabrication d'une certaine partie de iPhone pour... c'est des enfants qu'on envoie dans des mines. Dans les pays africains. Je sais plus quel pays africain. Angola, Congo, voilà. Bon, c'est les mines où on envoie des enfants au Congo. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça ? Quand on envoie tous nos déchets, les déchets informatiques que les entreprises françaises, pour recycler, pour changer de changer d'appareil, ils font appel à des sociétés finalement. On s'aperçoit que les sociétés, elles les envoient soit en Afrique, soit dans le Moyen-Orient. Je veux dire, voilà. C'est n'importe quoi. Et là, moi, en fait, c'est ce qu'on disait avec les amis. Moi, ce qui me désespère, c'est que là, on est tous des convaincus. Mais les passants, là, ils s'en foutent de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis contre la société d'ultra-consommation. Il faut changer tout ça. Et la croissance. Et après, quand on dit la croissance, ça va créer des emplois et tout ça. Mais je veux dire, il faut que les gens, ils aient les moyens d'acheter. Donc, c'est un truc de pouvoir d'achat. De toute façon, on ne pourra pas tout changer. Il faut tout mettre sur la table. L'économie, c'est pas l'ennemi de l'écologie. Il faut tout mettre sur la table. Il faut changer de système économique. Il faut remettre l'économie au service de l'homme. Il faut penser plus à l'homme qu'au fric. La fraude fiscale française. Les rapports officiels disent que c'est entre 80 et 120 milliards d'euros par an que ça coûte. On fait quoi ?
Il faut sortir du capitalisme financier d'abord et puis en changer complètement le système politique.
Changer le système, ça doit pas être juste dire changeons nos moyens de consommation. Avoir des actions individuelles, ça va pas changer le système. Ce qu'il faut, c'est sortir du capitalisme. Le capitalisme, c'est ce qui fait que la pollution détruit la planète actuellement. C'est ce qui fait que les humains sont réduits à l'état d'esclavage tous les jours. C'est ça, changer le système. C'est pas juste dire « Allons, arrêtons d'acheter des iPhones, arrêtons de consommer des vêtements, des trucs comme ça. » Non, ça sert à rien. Changer le système, sortir du capitalisme, ça va nécessiter de Comment dire ? Ça va nécessiter de récupérer l'outil de travail, déjà. Il faut permettre aux gens de récupérer leur outil de travail. Il faut qu'ils puissent être en capacité à s'auto-organiser. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes définir quel sera ce qui est le mieux à produire.
Changeons le système, c'est plutôt changeons tout ce qui va avec le capitalisme. Parce que le système, quand on parle de système, on parle de capitalisme. Le capitalisme pousse à la consommation. Et le problème, c'est que c'est la consommation qui détruit la planète. C'est surconsommer qui détruit la planète. Et il y a une des pancartes qui dit « Avec la surconsommation, on a l'air con ». Ben, c'est vrai, ça peut paraître bête, mais c'est vrai, le capitalisme pousse à une consommation de masse où tout le monde doit se ressembler, tout le monde doit être dans un ordre. Mais en fin de compte, c'est pas ça qu'il faut pour sauver la planète, pour sauver les individus. Il faut être dans une société solidaire, parce qu'on est dans une société individualiste. Il faut être dans une société qui comprend qu'il ne faut pas consommer, mais qu'il faut réapprendre à consommer durablement.
Oui, des interventions intéressantes. On a 2-3 minutes, donc c'est vrai qu'on peut se permettre d'en discuter. Bon, j'ai bien aimé la contradiction du second. Bon, contradiction interposée, j'imagine qu'ils ne se sont pas entendus pour débattre sur la question de la consommation et de l'achat d'iPhone XXXX. Bon, c'est vrai que ça ne doit pas être fait exprès, mais au début, ça parle davantage de consommation, ce qui peut être surprenant. Parce que la consommation, c'est que ça reste quelque chose d'individuel, effectivement. C'est pas quelque chose de systémique. Mais bon, peut-être que les gens partent de leur vécu pour essayer d'analyser leur envie de contestation. Mais il y a des remarques intéressantes. Ouais, c'est bien de voir que l'anti-capitalisme revienne en force. Alors moi, je suis allé à la manif. Je peux dire ce que j'ai écrit sur ma pancarte, par exemple. Parce que pour le coup, j'ai pas voulu prendre de micro, j'avais envie d'y participer en tant qu'individu qui se joint au collectif Arajoie pour le climat. Et j'avais écrit sur ma pancarte « Sauve le climat, bouffe un patron ». Je trouvais que ça résumait bien à peu près justement cette question de la prédation. Quoi. C'est vrai que le système capitaliste est prédateur. Le système capitaliste, c'est pas quelque chose d'abstrait. Quoi. C'est des personnes, c'est effectivement le capitalisme financier. Mais c'est pas que des flux d'argent, quoi, c'est des personnes qui les encaissent, ces flux financiers.
Et en ça, je pense que ta pancarte est quand même pas mal, parce que c'est vrai que de plus en plus de personnes parlent de sortir du capitalisme ou d'anticapitalisme, ce qui en soi est sans doute tout à fait intéressant. Mais est-ce qu'on met vraiment la même chose derrière ? Ça, c'est une autre question. Mmh. Et là, quand toi, tu dis « bouffe un patron », au moins, tu désignes un adversaire.
Oui, oui.
Et je pense que ça, c'est pas inintéressant de se dire que le capitalisme, c'est des classes sociales. Et des classes sociales, c'est des patrons et puis des travailleurs, quoi, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Alors effectivement, après, de là découle la consommation. Parce que les patrons, eux, leur intérêt, c'est de vendre de plus en plus, donc de polluer de plus en plus. On peut estimer qu'aucun patron n'arrivera à diminuer la pollution en quoi que ce soit. Mais c'est pas inintéressant, effectivement. Il y a une des personnes qui intervenait en disant « faut se réapproprier nos outils de production ». Ça, je pense aussi que c'est pas inintéressant de se dire qu'effectivement, le capitalisme, avec les patrons, nous a dépossédés de outils de production, nous a dépossédés de savoir-faire, de savoir. Et bon, l'exemple le plus frappant, c'est les chaînes de montage. Mais enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi la dépossession des savoirs paysans, enfin, etc.
La question de ce que produit la chaîne de production. Parce que là, c'est quelque chose qui n'apparaît pas non plus. Ouais. C'est la question du profit. Parce que se réapproprier la chaîne de production, c'est aussi se réapproprier la valeur du travail. Est-ce que... Et où va cette... où va cette valeur produite par les travailleurs et les travailleuses. Et c'est vrai que ça n'apparaît pas non plus.
Ouais. Tout à l'heure, on évoquait les milliards de la famille Mullier.
Ouais,
voilà,
ouais, ouais.
C'est...
Ils existent, ils sont pas loin.
C'est clair.
Et étrangement, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y avait des réponses plus diverses. Il n'y a personne qui a parlé de politique.
Ah, effectivement.
Alors que le système politique, c'est quelque chose qui existe, quoi. La démocratie, bon, on a plus trop le temps d'en parler, mais je voulais juste signaler ça. C'est vrai que tout de suite, c'est venu système économique, mode de consommation,
ouais.
Mode d'organisation de la consommation.
Ouais. On peut dire que c'est un premier pas. Voilà.
Capitalisme ou anticapitalisme, mais à aucun moment, personne n'a parlé de politique. Alors que les deux réponses, je trouve, sont valables. Ou alors, on aurait pu les associer.
Oui, en tout cas, elles sont liées.
Elles sont liées, voilà.
On a un système politique qui est aussi au service d'un système économique, quoi.
Exactement, tout à fait. Et ceux qui ont d'entre les mains le système économique ont les moyens de s'approprier le système politique.
Ah, complètement, et c'est la réalité d'aujourd'hui.
C'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà, on fait des très bonnes synthèses ce soir à Micro-Rebelle. Si vous voulez davantage de synthèses et d'analyses, réécoutez-nous, c'est tous les vendredis soirs à 18h. C'est également diffusé sur Radio PFM et sur Radio Plus. À Douvrin.